Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, 6 décès enregistrés à moins d'une semaine au cachot de Boko dans les territoires de Banzangungu au Congo central. Des sources médicales soupçonnent une éventuelle épidémie de choléra. Au Nord Kivu, les réseaux pour les droits de l'homme, REDO, dénoncent l'exploitation économique des enfants dans la ville commerciale de Butembo, surtout pendant cette période de vacances scolaires. Certains mineurs travaillent notamment dans les transports et d'autres font des travaux manuels, affirme cette organisation. L'invité de ce journal est David Angoyo, directeur régional de la Régie des Eaux dans l'espace Grand Katanga. Il parle de la mise en service de l'usine de captage et de traitement d'eau de Lovoy à Kamina dans la province du Haut-Lomami. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous. 6 décès ont été enregistrés en moins d'une semaine au cachot de Boko dans le territoire de Banzangungu au Congo central. À ce jour, les causes exactes de ces décès ne sont pas encore connues, même si des sources médicales soupçonnent une éventuelle épidémie de choléra. Cette série de morts inquiète la population et soulève de nombreuses questions sur les conditions de détention dans cette structure. Les notables du secteur de Boko appellent les autorités provinciales et nationales à intervenir rapidement afin d'éviter de nouveaux drames. Des détails avec Élise Kavira.
Le cachot de Boko dispose de 3 cellules d'environ 5 mètres carrés chacune, conçues pour accueillir près de 70 personnes. Aujourd'hui, elles abritent environ 134 détenus, soit presque le double de leur capacité normale. Les notables de Boko dénoncent cette surpopulation carcérale qui expose les détenus à des conditions de vie jugées inhumaines et favorise la propagation des maladies. Victor Nzuzimbembe, membre de la société civile.
Quelle surpopulation ? Et après, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de toilettes.
Alerté par les décès enregistrés dans ce cachot, le médecin chef de la zone de santé de Boko Kivulu a dépêché sur place un médecin afin d'évaluer la situation sanitaire et d'identifier les causes de ces morts. Le docteur Mbombolo Kangi Obéi fait le point.
Nous sommes arrivés quelques minutes après la dernière personne qui était décédée. Nous avons vu l'aspect du sel. Nous avons plus suspecté le cas de choléra. Tous les prisonniers ont bénéficié d'une chimio-prophylaxie à la doxycycline. Nous avons déjà aménagé un local qui va nous servir des centres de traitement de ces différents cas.
Selon le docteur Mbombolo Kangi, des échantillons ont été prélevés et envoyés à l'Institut national des recherches biomédicales pour analyse. Les autorités locales ont entrepris des mesures de désengorgement du cachot afin de réduire la promiscuité. Matadi, Élise Kavira, Radio Kapi.
Et pendant ce temps, en Ituri, au moins 13 personnes ont été tuées la nuit dernière dans une nouvelle attaque attribuée aux rebelles des ADF dans le territoire de Mambasa. L'attaque s'est produite en pleine forêt, dans le village de Banana École, à environ 20 km de Mambasa Centre, sur l'axe Mambasa-Kisangani. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
Selon des sources de la société civile, les assaillants ont également incendié plusieurs boutiques, 2 camions et 3 motos. Plusieurs personnes seraient par ailleurs portées disparues. Le bilan demeure provisoire. La société civile Force Vive de Mambasa déplore cette nouvelle attaque. Elle affirme avoir alerté les autorités, notamment lundi et mardi dernier, sur la présence des ADF dans certaines zones du territoire, sans qu'une disposition suffisante n'ait été prise selon cette structure. Du côté de l'administration territoriale, ces animateurs affirment que des efforts sont fournis pour rétablir l'ordre dans cette région. Face à la persistance des attaques, la société civile appelle les autorités à mieux anticiper les incursions des ADF en tenant compte des alertes de la population et demande également le renforcement des FARDC à Mambasa en effectif et en logistique. La société civile Force Vive appelle enfin la coalition FARDC UPDF MONUSCO à intensifier les opérations contre les ADF dans l'ensemble du territoire de Mambasa afin de favoriser le retour de la paix et des déplacés. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile Radio Kapi.
Et puis, les recherches se poursuivent encore ce samedi pour retrouver le corps des personnes portées disparues après le naufrage d'une baleinière survenue dans la nuit de jeudi à hier vendredi à la hauteur du village de Linoko, près de Kisangani, dans la province de la Tchopo. Selon les dernières informations, au moins 6 corps ont été repêchés, tandis que 31 rescapés ont été enregistrés. Rodeline Tibonera revient sur les circonstances de ce drame.
Tout a commencé jeudi en début de soirée lorsque le capitaine de l'embarcation a décidé de quitter les ports de Kisangani à destination de Lokutu, une entité située à plus de 250 km. Selon un témoin ayant perdu un membre de sa famille dans le naufrage, la baleinière arrivée à hauteur de Yakusu à une dizaine de kilomètres de Kisangani a été confrontée à de fortes vagues sur le fleuve Congo. C'est dans ces conditions que l'embarcation a chaviré aux environs des 19h. De retour sur le lieu du drame, Jean-Pierre Bantoke, commissaire fluvial, attribue l'incident au nord-est respect de la réglementation en vigueur. Il déplore que le capitaine ait levé l'ancre à 18h05 malgré l'interdiction de naviguer à 7h. Il précise également que les responsables des postes de contrôle avaient refusé de délivrer les documents autorisant le voyage, demandant à l'armateur d'attendre jusqu'au vendredi matin pour prendre le départ, une mesure à laquelle le capitaine ne serait pas conformé. De son côté, Christine Lindondo, chef de division provinciale des transports, indique que des équipes ont été déployées sur le lieu du sinistre afin de poursuivre les recherches et de retrouver les personnes toujours portées disparues. Elle reste toutefois prudente quant au nombre exact des passagers à bord de l'embarcation, les manifestes de voyage n'ayant pas été retrouvés. L'absence de ces documents complique l'identification des victimes et l'établissement du bilan définitif de cette nouvelle tragédie fluviale qui relance les débats autour du respect des règles de navigation sur le voie d'eau de la République démocratique du Congo.
Et par ailleurs, le trafic sur la rivière Lomami a repris et les camions qui étaient bloqués de part et d'autre vont dans les deux sens. Ceci se fait à la faveur de la réhabilitation du bac Makolé, tombé en panne il y a plus de 2 mois. Cette reprise est temporaire selon l'office des routes, car les moteurs ont seulement été segmentés pour faciliter le trafic Kabinda Lubao et vice-versa. Des explications avec Esther Ndalafina.
Sur les rives de la Lomami, l'ambiance a changé depuis quelques jours. La traversée sur le bac a repris, les transporteurs reprennent leurs habitudes et les opérateurs économiques respirent enfin. Pendant plus de 2 mois, ils ont dû transborder leurs marchandises sur des pirogues en augmentant les coûts de transport. Après avoir traversé sur le bac ce samedi avant midi, Stani Kasongo, habitant de Lubao, s'est dit satisfait du désenclavement de son territoire.
Nous venons de traverser notre petit véhicule séjour. Sur le plan économique, Lubao connaissait une vie atroce car les marchandises, on les achetait à vraiment un prix exorbitant. Les véhicules ne fréquentaient plus Lubao. Lubao était totalement enclavé. Le bac de Kasongo en panne, celui de Makolé en panne, donc il n'y avait pas moyen d'acheter les marchandises à bas prix.
Selon l'office des routes, les deux moteurs du bac Makolé ont été segmentés temporairement en attendant l'acquisition des nouveaux moteurs. Une solution provisoire, mais qui permet déjà de relancer les activités économiques et de désenclaver les localités des territoires de Lubao et Kabinda. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, je le disais au début de ce journal, le réseau pour les droits de l'homme, REDO, alerte sur l'exploitation économique des enfants dans la ville commerciale de Butembo, surtout pendant cette période de vacances scolaires. L'organisation affirme que certains mineurs travaillent notamment dans des transports et d'autres font des travaux manuels. Son coordonnateur, Mouindo Wassivinois, appelle les parents des autorités à mettre fin à ces pratiques qui violent les droits des enfants. Il est au micro de Martial Papimoukeba.
Les REDO constatent la recrudescence de l'utilisation ou l'exploitation économique des enfants mineurs à ville de Butembo et environ à cette période de vacances. Qu'à ces jours, plusieurs enfants sont utilisés comme des main d'œuvre dans les entreprises. Les uns travaillent dans les entreprises de transport urbain, parfois comme des chauffeurs, soit aides-chauffeurs, des motos Bajaj et triporteurs. D'autres sont des ouvriers manœuvres exerçant des travaux lourds, sans oublier ceux utilisés dans la vente des matières inflammables. Quelques enfants et parents rencontrés ont déclaré qu'ils sont à la recherche des moyens pouvant faciliter leur survie et rentrée scolaire. Les REDO rappellent que les textes légaux sur la protection de l'enfant condamnent sévèrement l'exploitation économique de l'enfant, peu importe les mobiles et les bénéfices visés. Les REDO recommandent aux parents et ceux qui exploitent les enfants à cesser avec cette pratique. Appelle aussi les autorités étatiques de s'y imbriquer pour lutter contre l'exploitation économique des enfants.
Nous n'avons pas obtenu la réaction des autorités à ces sujets. Et dans le même contexte, des enfants contraints de mendier dans les rues, d'autres employés comme main d'œuvre sur des chantiers ou encore transformés en petits commerçants. Ainsi se déroulent les vacances des nombreux mineurs à Kisangani, une situation qui préoccupe les défenseurs des droits de l'enfant dans la Tchopo. Ces derniers dénoncent des formes d'exploitation économique et appellent les autorités à faire respecter les droits des enfants, notamment leur droit à la protection, à l'éducation et aux loisirs. Encore une fois, Ronelin Tibonera, Idi Amin.
On le voit partout, ces enfants âgés de 9 à 13 ans, certains vendent des cacahuètes, des lots, des bananes ou des avocats dans leur rue. D'autres accompagnent leurs oncles et tantes malvoyants, tandis que ceux de 13 et 14 ans sont employés sur des chantiers affectés à toutes sortes de travaux, déplore Jean-Paul Nindou, défenseur des droits des enfants.
Les enfants sont pratiquement abandonnés. Les familles ne savent à qui donner la tête. particulièrement pour des familles monoparentales, les enfants sont sacrifiés pratiquement.
Alors que la loi interdit l'utilisation de mineurs de moins de 18 ans dans des activités pouvant nuire à leur bien-être, il estime qu'il est urgent que l'État se saisisse de cette question.
Ici, l'État doit sortir de sa torpeur pour prendre l'affaire à bras-le-corps. Tout le monde chante dans les discours. La jeunesse, c'est l'avenir de demain. Mais concrètement, on ne sent pas l'engagement de l'État de préparer l'avenir de demain.
Selon l'article 50 de la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, un mineur âgé de 15 ans ne peut pas être engagé ou maintenu en service, même comme apprenti, qu'à condition d'obtenir une dérogation expresse du juge pour enfants après avis psychomédical d'un expert et de l'inspecteur du travail.
Et par ailleurs, l'Institut de recherche en droits humains, IRDH, vient d'adresser un mémorandum au président de la République à propos de ce qu'il qualifie d'impunité des entreprises minières qui, d'après cette organisation, polluent l'environnement. Il s'agit notamment des CDM, Chemaf et Sokima. Au cours d'une conférence de presse tenue avant-hier jeudi à Lubumbashi, le directeur général de l'IRDH a souligné que ces trois cas sont illustratifs de l'institutionnalisation de l'impunité dont bénéficient des entreprises minières responsables des graves pollutions environnementales dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba. L'IRDH demande au président de la République d'exiger notamment le respect des droits des victimes et de garantir l'effectivité des obligations de protection de l'environnement. Hubert Chiswaka, directeur général de l'IRDH, est au micro de Paul Mounanga.
C'est le cas de Chemaf qui a abandonné trois bassins de rejet de Lexivia, donc les eaux usées après traitement des minéraux, et cet abandon a déjà causé un mort d'homme. Le deuxième cas, c'est le cas de CEDEM. Vous vous souvenez, en novembre 2025, il y avait eu un incident majeur qui avait déversé près de 2 800 000 mètres cubes de rejet dans les quartiers de Kassapa, Kamatete et Kamisepe, qui sont des quartiers dans densément habité. Le gouvernement avait condamné CEDEM au paiement d'au moins 6 millions au profit des communautés. À ces jours, ça fait près de 7 mois après, CEDEM ne veut pas payer ces 6 millions de dollars. Et le dernier cas, c'est celui des deux incidents majeurs qui sont advenus à Kwampisha du fait des semi-cas qui a déversé des acides dans les rivières Kasonta et Kibunduka. Ces deux rivières sont en train d'alimenter le lac artificiel de Inera qui fait des recherches. Plus de 208 étangs sont pollués pour le moment.
Notez que l'entreprise minière Sokima a promis de réagir prochainement. Cependant, aucune réaction pour le moment des deux autres entreprises minières incriminées par l'IRDH. La MONUSCO poursuit son appui à la stabilisation et à la réintégration des ex-combattants en Ituri. À Tseré, environ une dizaine de kilomètres de Bounia, la section désarmement, démobilisation, réintégration et stabilisation a lancé hier vendredi la deuxième phase d'un projet de réinsertion communautaire en faveur des ex-combattants et des membres des communautés locales. Celle-ci porte entre autres sur des travaux de réhabilitation de certains accès routiers et la construction d'une clôture de protection de la coopérative qui encadre les ex-combattants. Alida Kachueka a pris part à la cérémonie de lancement. Voici son reportage.
Le projet, financé à hauteur d'environ 90 000 dollars américains par la MONUSCO, s'inscrit dans le cadre de l'appui au programme national de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. Selon Jean-Vianney Kaloumé de la section DDRS de la MONUSCO à Bounia, ce projet vise à la fois la réintégration des ex-combattants pour la cohésion sociale dans leur communauté et le développement des communautés bénéficiaires.
Ce projet vise à renforcer la cohésion sociale et favoriser la réintégration durable des ex-combattants et améliorer les conditions de vie des populations locales à travers des activités génératrices de revenus et de formations pratiques.
Les bénéficiaires espèrent ainsi renforcer leur autonomie économique tout en contribuant au développement de leur communauté. Ils demandent à leurs anciens camarades encore présents dans les groupes armés d'abandonner les armes et de réintégrer la vie civile. Isaac Abagambe, l'un des bénéficiaires.
Nous sommes très contents. Ce projet nous est utile car il va nous faire oublier tout ce que nous avons traversé en brousse. Car c'est la MONUSCO qui continue de nous encadrer. Et à ceux qui sont encore dans la brousse, nous leur demandons de revenir à la vie civile.
Par ailleurs, ce projet se déroulera sur l'axe Roi-Para-Tchabusiko dans le groupement Tiré à une distance de 6 km. Alida Kachueka, Radio Capital.
Actualité internationale.
Au Bénin, le parti d'opposition des démocrates a réagi après l'installation du Sénat et l'élection de l'ex-chef d'État Patrice Talon à la tête de la chambre haute du Parlement. Il a été installé malgré nous, a ainsi réagi Habibou Ouarou-Tchoubou, ancien député, secrétaire à la mobilisation des ressources des démocrates et membre influent du parti.
L'invité.
Il s'agit de David Angoyo, directeur régional de la régie des eaux dans l'espace Grand Katanga. Il parle de la mise en service de l'usine de captage et de traitement d'eau de l'Ovoy à Kamina dans la province du Olomami. David Angoyo s'entretient avec Paul Emunanga.
Monsieur David Angoyo, bonjour.
Bonjour Monsieur Paulin, bonjour à tous les auditeurs de la Radio La Paix.
Parlez-nous tout d'abord de cette usine de l'Ovoy de captage et de traitement d'eau de Kamina. Comment est-ce que cette usine est née?
Aujourd'hui, la Régie des eaux, dans son univers, compte parmi les nouvelles usines ou la cadette la plus récente. Après l'inauguration que nous avons suivie, nous tous, du troisième module de l'usine de l'Ozone à Kinshasa, des 110 000 mètres cubes jour, qui s'ajoute aux deux premiers. Nous venons à Kamina pour vous présenter, pour mettre en service une nouvelle usine moderne, une usine qui s'appelle l'usine de l'Ovoy, parce que l'Ovoy, c'est le nom de la rivière. La rivière que nous avons captée, là a été construit des ouvrages, des bassins d'aération, des bassins de décantation, la filtration, des ouvrages et des stockages d'eau traitée, et ensuite que des stations de pompage d'eau traitée, tout comme en amont la station de pompage Aubrit qui a été captée de l'Ovoy. C'est une nouvelle usine qui a comme capacité des productions journalières d'eau potable de 7000 mètres. C'est une mètre cube qui est très significatif par rapport à la ville de Kamina. Kamina a traversé une crise hydrique sans pareil de près d'un demi-siècle.
Est-ce qu'il y a de l'énergie suffisante pour alimenter cette usine de l'Ovoy?
En termes de l'énergie, nous utilisons aujourd'hui l'énergie fossile ou l'énergie thermique parce que nous disposons de 4 groupes électrogènes qui dégagent une puissance à peu près de 1 MW. Mais c'est onéré et c'est coûté utiliser les gazoles et ça ne rassure pas vraiment d'une exploitation sécurisante, d'une exploitation à moindre coût parce que Kamina, c'est pas une ville aussi, des gens qui ont beaucoup d'argent, mais il faut voir cette population qui a des activités aussi limite, mais il faudra que les coûts d'opération puissent rencontrer l'économie qu'il y a à Kamina afin que les gens aient de l'eau. Nous avons salué la présence du numéro 1 du pays, le chef de l'État, qui était là pour couper les rubans, pour inaugurer l'usine de l'Ovoy, et de là, les DG de la Régie des eaux que j'ai salué en passant, l'ingénieur David Chilumba Mutombo, a fait les plaidoyers de la Régie des eaux et a exprimé les soucis pour optimiser l'utilisation ou le fonctionnement de cette usine. Il a demandé si on peut encore aller plus loin pour réhabiliter une centrale qui est dans la zone.
La SNEL n'est pas disponible dans la zone pour le moment.
La SNEL est disponible, mais n'a pas la capacité pour desservir aussi l'usine de l'Ovoy. Mais cela demande quelques conditionnements au niveau de la centrale. Et je pense que dans les jours à venir, nous aurons la bonne nouvelle de la restauration de la capacité installée de la centrale pour pouvoir nous aider à dégager les 1 méga et afin de bien faire tourner. Mais il y a des solutions alternatives parce que maintenant, la technologie évolue et dans un premier temps, je crois qu'un champ des panneaux solaires ou une petite centrale solaire sera construite en attendant à moyen terme que la centrale hydroélectrique puisse répondre convenablement tel que nous souhaitons.
Toutes ces années là passées, puisque l'usine de Lukoka n'était plus en mesure d'alimenter la population en eau potable, comment se débrouiller cette population?
Mais certainement, les gens ont développé une habitude de la résilience parce que l'eau, c'est la vie. L'homme ne peut pas vivre sans eau. Et d'ailleurs, notre constitution de la République du Congo accorde une place de choix à ça. Dans son article 48, que les droits d'accessibilité en eau potable est garanti par la constitution, par les pouvoirs centrales, par les pouvoirs provinciaux, etc. Et les gens, avec la libéralisation, étaient en train d'utiliser des puits et des forages, mais à leur risque et péril parce que c'est pas des eaux conditionnées, c'est pas des eaux traitées. Inno, on peut pas la faire confiance parce que on l'a prélevée dans les sous-sols. Elle est un peu claire, mais il y a un travail à faire. Et c'est là le génie, c'est là le challenge de la régie des eaux parce que nous nous rassurons vraiment Inno propre, Inno sécurisante, Inno potable dans les robinets.
Monsieur David Angoyo, je vous remercie.
Mais voilà, c'est à moi de vous remercier. Faites confiance à la régie des eaux. La régie des eaux dit toujours l'eau c'est la vie, mais de l'eau potable que nous garantissons, c'est pour la très longue vie et le développement. Merci.
Et notre invité David Angoyo, directeur régional de la régie des eaux dans le Grand Katanga, s'entretenait à Lubumbashi avec Paul Mounanga. C'est la fin de ce journal. Infiniment merci à vous de l'avoir écouté. Il est midi passé de 20 minutes à Kinshasa, une heure de plus à Lubumbashi, dans le Haut Katanga.